France Inter.
Tout pile, donc Céline Asselot pour l'info. Bonsoir Céline.
Bonsoir à tous. Elle doit commencer au Mexique, traverser les États-Unis et se terminer au Canada. Des millions de personnes s'apprêtent de l'autre côté de l'Atlantique à admirer une éclipse solaire totale, un événement très rare qui suscite de l'attente et presque de l'hystérie chez certains Américains. On part au Texas au début de ce journal. On s'interrogera aussi sur ce sable du Sahara qui recouvre le ciel dans le sud-est de la France. Là aussi, c'est un événement exceptionnel, mais moins réjouissant tout de même. On ira aussi à Rome où le Vatican publie un texte sur la dignité humaine. L'avortement, les opérations de changement de sexe sont des cas de violation grave, dit l'Église catholique qui appelle par ailleurs à dépénaliser l'homosexualité. Dans l'actualité également ce soir, les magistrats qui demandent plus de moyens pour lutter contre la délinquance financière. Le gouvernement qui veut développer le service civique écologique avec des missions 100% environnement. Les jeunes pas très emballés par l'idée de laisser leur téléphone à l'entrée des collèges. C'est l'idée avancée par la ministre de l'éducation pour lutter contre le harcèlement. On vous présentera aussi l'équipage très hétéroclite qui accompagnera la flamme olympique dans sa traversée de l'Atlantique. Une Miss France, une championne d'athlée, un chef étoilé et un metteur en scène. Et puis qui sont les transfuges de classe? Question au cœur de votre téléphone sonne ce soir. Fabienne Sintès attend vos questions, vos témoignages. 01 45 24 7000.
France Inter.
Des hôtels qui affichent complet, des chaînes de télé qui ont lancé leur compte à rebours, des écoles qui ferment plus tôt, des embouteillages qui se forment un peu partout. Ils sont rares les événements comme celui-ci qui viennent bousculer le quotidien et offrir un moment suspendu où tous regardent dans la même direction. Dans environ une heure, maintenant, l'Amérique du Nord va vivre une éclipse de soleil, éclipse partielle sur l'ensemble du continent, mais éclipse totale sur un corridor qui va du Mexique au Canada et qui passe par le Texas, où vous vous trouvez, Thomas Arms, pour France Inter.
Dans ce parc de Waco, les curieux arrivent peu à peu. Comme Wesley, 5 ans, il sait très bien ce qu'il va voir.
L'éclipse, c'est quand le soleil se cache derrière la lune. C'est trop cool.
Autour d'un million de personnes ont pris l'avion ou la route pour se retrouver sous le corridor où l'éclipse sera totale. Et à Waco, cette éclipse totale va durer 4 minutes et 13 secondes, la plus longue durée de cet épisode sur tous les États-Unis. Dotée de ses lunettes pour regarder l'éclipse en toute sécurité, Carrie a roulé depuis Houston à 2h30 de route pour assister au phénomène. Elle a retiré ses enfants de l'école pour qu'ils l'accompagnent.
Je n'ai jamais assisté à ça avant, d'autant que la prochaine éclipse totale dans la région est prévue pour dans 20 ans. C'est une vraie chance pour mes enfants de pouvoir apprendre et expérimenter un tel phénomène.
L'espace d'un instant, il fera nuit en plein jour. Les oiseaux vont arrêter de chanter et aller se coucher si tout se passe comme prévu. Car dans la plupart des villes sur le trajet de l'éclipse totale au Texas, la météo est pluvieuse ou au mieux nuageuse. Mais ici à Waco, tout le monde croise les doigts, le soleil darde ses rayons. Waco, Thomas Arms, France Inter.
Alors pour ceux qui sont loin des États-Unis et qui veulent tout de même assister à cette éclipse, il y a Internet et le site de la NASA qui va tout retransmettre en direct. Sinon, pour la vivre en vrai, eh bien un peu de patience. La prochaine éclipse totale en France, ce sera en 2081. Voilà, c'est pas tout de suite. Ouais. En tout cas, de ce côté-ci de l'Atlantique, c'est un autre phénomène que l'on peut apercevoir si l'on lève les yeux. Le ciel rempli de poussière, de sable du Sahara. Alors, c'est pas une première. Bonsoir Célia Kinrich.
Bonsoir Céline.
Mais l'épisode que connaît en ce moment le sud-est de la France est d'une ampleur exceptionnelle.
Oui, c'est le terme. En effet, constat ce matin de l'observatoire satellitaire européen Copernicus à propos de ces poussières du Sahara qui remontent depuis samedi sur l'Europe de l'Ouest. C'est le troisième épisode en 2 semaines. L'air est surchargé en particules de moins de 10 mm, en particulier en Espagne, au Portugal, dans le sud de la France, en Allemagne. Hier, la qualité de l'air était particulièrement dégradée en Haute-Garonne, dans le Gers, l'Ariège ou les Pyrénées-Orientales, ce qui peut entraîner des crises d'asthme ou des allergies. Vous avez pu voir dans ces départements un ciel brumeux et des dépôts de poussière sur les voitures ou les fenêtres. Et ce phénomène va continuer dans les jours qui viennent. Les poussières vont circuler jusqu'à la Scandinavie, selon Copernicus, à cause des courants atmosphériques. Et l'Institut insiste, ces panaches de poussière en Europe ne sont pas rares, mais leur intensité et leur fréquence ont augmenté ces dernières années. En général, ces poussières minérales du Sahara retombent sur le sol assez vite, mais les plus petites, celles qui nous irritent en ce moment, peuvent parcourir des milliers milliers de kilomètres.
Merci Célia Kinneret, spécialiste environnement à la rédaction de France Inter. Et dans le nord-ouest de la France, c'est la tempête qui inquiète. Le Finistère a été placé en vigilance orange, vagues, submersion et vent. Les Côtes d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, la Manche, la Seine-Maritime, la Somme et le Pas-de-Calais seront concernés à partir de demain matin. Prévision complète à la fin de ce journal et à noter que le trafic des trains sera interrompu demain matin dans le département de la Manche. C'est ce que vient d'annoncer la SNCF.
Après le retrait des troupes israéliennes de Ran Younes, va-t-il y avoir une trêve à Gaza ?
La question en tout cas est au centre des négociations menées aujourd'hui au Caire, mais difficile de savoir ce qu'il en est vraiment. En début de journée, un média égyptien faisait état de progrès significatifs dans les discussions aussitôt tempérées par les deux camps. La Maison-Blanche de son côté estime que c'est au Hamas de concrétiser le cessez-le-feu puisqu'une proposition lui a été faite à la fin du week-end. Ce soir, le ministre israélien de la Défense assure que le moment est opportun pour une trêve, mais le Premier ministre Benjamin Netanyahou assure il y a quelques minutes qu'une date a été fixée pour l'opération à Rafah où se trouvent des millions de Gazaouis réfugiés sans préciser laquelle. Les familles d'otages, elles, réclament toujours le retour de leurs proches. Elles ont été reçues aujourd'hui par le pape François au Vatican. Le Vatican qui clarifie par ailleurs la position de l'Église sur les grands sujets d'actualité, des migrants à l'avortement, passant par les travailleurs pauvres, la GPA ou encore le numérique. Une synthèse d'une vingtaine de pages intitulée « Dignité infinie » a été publiée aujourd'hui. Bonsoir Bruno Duvic.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de Rome pour France Inter. C'est un texte d'une vingtaine de pages qui a été rendu public aujourd'hui avec un fil rouge, la question de la dignité humaine.
Oui, dignité infinie, parce que l'homme et la femme sont créés par Dieu. Tout vient de là, dans l'enseignement de l'Église, de la lutte contre la pauvreté au refus de l'avortement, refus de la GPA aussi. L'enfant devient un objet, c'est une atteinte à la dignité, non aux théories du genre qui aboutissent à nier les différences sexuelles. Le Vatican s'oppose à toute opération de changement de sexe. L'enseignement de l'Église, en résumé, est un tout. On ne peut pas picorer selon que l'on est conservateur ou progressiste. Et puis le cardinal Fernandez, qui a rédigé ce texte, a été interrogé sur la France, qui vient d'inscrire le droit à l'avortement pour les femmes dans sa constitution.
Quand un enfant se développe dans le ventre de sa mère, cela peut être une femme en devenir. Pour nous, entre les droits de ces deux femmes, le droit à la vie est le plus important.
Et en marge de la présentation de ce texte, le cardinal Fernandez, qui est chargé de la doctrine au Vatican, est revenu sur la bénédiction de couples homosexuels.
Oui, pour l'assumer, quelles que soient ses positions, l'Église accueille tout le monde. À ceux qui refusent d'appliquer la consigne, le cardinal rappelle que les prêtres et évêques ont juré fidélité au pape, appel à la dépénalisation de l'homosexualité aussi, là où elle est encore punie. Et puis le catéchisme catholique condamne pourtant toujours ce type de relation. On lui a posé la question. Réponse, pour l'Église, les relations hommes-femmes sont ce qu'il y a de plus beau parce qu'elles donnent la vie, mais de là à qualifier les relations homo d'intrinsèquement désordonnées, comme dans le catéchisme.
C'est vrai qu'on pourrait trouver d'autres paroles plus adaptées à ce mystère.
Le cardinal ne précise pas à quelle échéance le texte pourrait être remanié.
Merci Bruno Duvic, correspondant de France Inter à Rome. Une marche blanche aura lieu vendredi à Viry-Châtillon en hommage à Chem Sedine. Cet adolescent de 15 ans est mort vendredi après avoir été tabassé à la sortie de son collège. Ses obsèques seront célébrées demain. Quatre jeunes hommes ont été mis en examen pour assassinat, notamment deux frères qui n'auraient pas accepté que la victime discute de sexualité avec leur sœur. La jeune fille, elle, était mise en examen pour abstention volontaire d'empêcher un crime. Alors justement, comment éviter les agressions entre les adolescents ? Comment empêcher que de simples différends génèrent une telle violence ? Eh bien d'abord en agissant dès les premiers signes, répond le gouvernement qui réfléchit à la mise en place de conseils disciplinaires dès l'école primaire, mais aussi en réduisant la place des écrans pour que le harcèlement en ligne ne se transforme pas en violence dans la vie réelle. C'est pourquoi Nicole Belloubet se dit favorable à une pause numérique pour les collégiens. L'usage des téléphones est déjà interdit au collège, mais la ministre de l'Éducation souhaite obliger les élèves à les déposer à l'entrée de l'établissement. Alors qu'en disent les intéressés ? Petit tour d'horizon au micro de Manon Mella.
Je pense que ça peut être une bonne idée parce que des fois, on est sur nos téléphones en cours, surtout dans les cours un peu musique et art plastique parce qu'on s'ennuie un peu. Il faut respecter le prof et le cours. Donc je pense que ça peut être une bonne idée de laisser le téléphone à l'entrée du collège.
Je trouve que c'est bien parce qu'il y a des gens qui utilisent leur téléphone pour jouer et pour faire plein de trucs comme ça. Mais après, il y a des gens qui utilisent leur téléphone pour regarder les devoirs qu'il leur reste à faire. Un de mes amis, sa grand-mère était gravement malade et du coup, il avait son téléphone tout le temps sur lui pour voir, pour prendre des nouvelles.
Moi aussi, je trouve que c'est mieux si on travaille sans les téléphones. Ça peut être difficile pour travailler et... moi je pense que c'est bien de travailler sur téléphone aussi. Les personnes qui harcèlent des élèves, ça, ils le font à la maison, donc je pense que ça va pas trop changer.
Témoignage recueilli par Manon Mella, retrouvé aussi en vidéo sur les réseaux sociaux de France Inter. Alors eux n'ont pas de portable, en tout cas il faut l'espérer, mais ils peuvent aussi être trop souvent devant les écrans. Les enfants de moins de 3 ans doivent être mieux protégés des effets néfastes du numérique. C'est ce que pensent deux députés Les Républicains qui ont déposé aujourd'hui une proposition de loi pour interdire toute exposition des bébés aux tablettes et les téléphones dans les crèches ou au domicile des assistantes maternelles. De son côté, Christophe Béchu esquisse les contours d'un nouveau service civique écologique à destination des jeunes de 16 à 25 ans. Il s'agira, explique le ministre de la Transition écologique, de missions de 6 à 12 mois sur le modèle du service civique classique, mais exclusivement tourné vers la protection de l'environnement, Hugo Siliou.
Sur les 150 000 jeunes qui effectuent leur service civique, seuls 5 600 sont sur des missions en rapport avec l'écologie. C'est ce qui aurait motivé la création de ce service civique écologique. L'objectif affiché, c'est 50 000 jeunes engagés sur des missions en rapport avec la transition écologique d'ici 2027. Pour l'instant, aucun budget n'a été évoqué, mais pour promouvoir son projet, le ministre de la Transition écologique a annoncé la formation d'ambassadeurs. Dès juin, un millier de jeunes seront déployés partout en France pour encourager leurs pairs à rejoindre le service civique écologique. En septembre prochain, ces nouveaux candidats pourront intégrer différentes structures, associations, collectivités territoriales ou opérateurs de l'État, comme la RATP ou Enedis. Ils les emploieront sur des sujets en rapport avec l'écologie. À l'issue de leur mission, ces jeunes se verront proposer des offres de stage, d'alternance ou d'emploi.
Hugo Siliou du service Sciences, Santé et Environnement de France Inter.
Il demande plus de moyens pour lutter contre la délinquance financière.
Oui, car c'est le parent pauvre, disent-ils, de la chaîne pénale. Les 250 magistrats signataires de deux tribunes qui ont été publiés aujourd'hui sur le sujet dans le journal Le Monde. Textes séparés, mais un constat commun. Il manque de bras et de financement suffisants pour mener correctement leurs enquêtes sur les arnaques en ligne, les détournements d'aides publiques à la rénovation, encore la fraude fiscale. Ce sont des enquêtes qui peuvent paraître austères, peu médiatiques, mais qui ont un impact sur la vie de la démocratie et des citoyens. Xavier Bonhomme, procureur général près de la Cour d'appel de Nîmes, est l'un des signataires de l'une des tribunes.
Les services d'enquête sont insuffisamment dotés, en tout cas pour traiter les flux massifs de procédures financières, que ce soit déjà le bas du spectre de la délinquance astucieuse, je parlais essentiellement des escroqueries, des abus de confiance. Par la force des choses, effectivement, des choix doivent être opérés et ces procédures sont quasiment pas traitées parce qu'effectivement, il y a un manque de moyens pour des procédures qui exigent parfois des investigations longues, parfois à l'étranger. Et ça, c'est une vraie difficulté avec un défaut total d'enquêteurs spécialisés en ce qui concerne le traitement du bas du spectre de cette délinquance. Et puis, pour le haut du spectre de la criminalité économique et financière, des affaires de blanchiment, etc., on a certes des services spécialisés en capacité d'effectuer ces enquêtes-là, mais la masse fait que, effectivement, les délais sont particulièrement longs pour investiguer, pour élucider ce type d'affaires.
Xavier Bonhomme, procureur général près la Cour d'appel de Nîmes, au micro de Delphine Evenoux pour France Inter. Réclame une indemnisation financière de la part de l'État et l'instauration d'une date commémorative pour que personne n'oublie leur histoire. Les enfants de la Creuse veulent davantage de reconnaissance. C'est le sens d'une proposition de loi déposée par la députée réunionnaise Karine Lebon. Les enfants de la Creuse, ce sont ces 2000 enfants originaires de la Réunion arrachés à leur famille dans les années 60 à 80 pour aller peupler des régions peu habitées de l'Hexagone. Ils sont aujourd'hui des adultes encore traumatisés par cet épisode de leur enfance. C'est le cas de Valérie Andanson, secrétaire de la Fédération des enfants déracinés des départements et régions d'outre-mer. Elle a été envoyée à Guéret à l'âge de 3 ans. C'était en 1966.
C'est important cette indemnisation financière parce que tout simplement, lorsque nous sommes partis, nous partions pour un avenir meilleur. On devait devenir avocat, médecin. Et on devait retourner tous les ans dans nos familles. Et en fin de compte, voilà, on est parti pour un aller simple. Et la plupart des enfants dits de la Creuse ne sont pas allés à l'école. Donc la plupart des enfants dits de la Creuse sont dans des situations de précarité. Et je vous dirais que là, en 2024, j'ai des compatriotes qui ne savent ni lire ni écrire. Et je pense que maintenant, il faut que ça aille beaucoup plus vite. Parce que beaucoup d'enfants dits de la Creuse vieillissent, décèdent. Il ne faut pas attendre qu'on soit décédé pour qu'il y ait des réparations. Pas uniquement financières, parce que ce que l'on veut aussi, ce sont des réparations mémorielles. C'est un volet très important, la réparation mémorielle. Moi, je crois qu'il est temps de nous écouter.
Valérie Andanson de la Fédération des enfants déracinés des départements et régions d'outre-mer. Elle répondait aux questions d'Ajram Mohamed. Cela concerne des millions de ménages bloqués dans leur projet de déménagement. Le taux des crédits immobiliers est en baisse pour la première fois depuis 2 ans. Le taux moyen s'est établi en février à 4,11% selon des données publiées ce soir par la Banque de France. Comment mettre de la vie, de la convivialité dans les structures qui accueillent des personnes très âgées ou très dépendantes? C'est une question centrale, mais pas toujours facile, car en entrant dans un EHPAD, les résidents perdent souvent ce qui faisait leur quotidien, comme faire leurs courses, par exemple. D'où l'idée de ce centre gériatrique de l'Indre à Saint-Maur, près de Châteauroux, qui a ouvert une friperie dans ses locaux. Et cela donne, Manon Klein, un petit air de centre-ville qui plaît bien aux résidents et à leurs familles.
Il faut parfois un peu farfouiller sur les portants de vêtements pour trouver son bonheur. Marie-Claire observe les robes.
C'est trop ouvert, là, j'aime pas. Ça, c'est trop petit, je n'ai pas dedans. Oui, j'ai beau gris.
Cette résidente a déjà pris des lunettes de soleil et un sac. Elle aime bien cette friperie.
C'est très bien pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer.
Hubert partage cet avis, il est venu voir sa belle-mère.
Ça les change de leur chambre, ça les sort. J'ai l'impression de revivre, d'être comme tout le monde. C'est de la vie. Faire les courses, la friperie, regarder, choisir ses vêtements. Franchement, il n'y a pas mieux. Très belle initiative.
Pour faire tourner la friperie, il y a les salariés de la structure, mais pas que. Certains résidents, comme Daniel, mettent la main à la pâte.
On a tout préparé, les vêtements. On les a tout triés. Je m'occupe un peu de me distraire en m'occupant des autres et en remontant le moral des gens qui ne l'ont pas.
Et ça a l'air de plutôt bien marcher. Christelle Cousin, aide médico-psychologique, et Véronique Gauthier, aide-soignante, observe les bienfaits.
C'est des gestes, des idées, des choses qu'ils ont oubliées. En arrivant en structure, on sent bien que ça revient. Et même tous les souvenirs avec mes enfants, avec mon mari, je sais qu'avec mon mari, on allait dans tel magasin. Il y a vraiment eu des interactions.
Même des dames, quand elles viennent à la friperie, elles s'apprêtent avant de venir et tout, parce que c'est la sortie, en fait. Ça leur donne encore envie de plein de choses, quoi.
Les vêtements ici sont accessibles gratuitement ou par troc.
Reportage signé Manon Klein de France Bleu Péri pour France Inter.
Elle arrivera en France dans un mois, jour pour jour.
Oui, la flamme olympique sera à Marseille le 8 mai prochain, début d'un périple de plusieurs semaines à travers tout le pays, jusqu'à la cérémonie d'ouverture à Paris. Et quand on dit tout le pays, cela comprend aussi les Antilles. La flamme embarquera début juin à Brest, à bord du trimaran géant d'Armel Lecléache pour traverser l'Atlantique. Et pour accompagner cette étape symbolique, le comité d'organisation a choisi des personnalités qui n'ont aucun lien, mais vraiment aucun lien avec le monde de la mer. Alors qui pour faire partie de l'aventure? Réponse avec Jérôme Val.
Des dizaines de personnalités ont été sondées ou approchées pour savoir si cette traversée de l'Atlantique de 8 jours sur un trimaran volant avec la flamme olympique à bord pouvait les séduire. Au final, 4 ont été retenus, 2 hommes et 2 femmes, Marine L'Orphelin, ancienne Miss France, aujourd'hui médecin, et Marie-Josée Pérec, guadeloupéenne et triple championne olympique.
C'est un cadeau qu'on fait à l'outre-mer. Ça fait peur de prendre le bateau, surtout ce genre de bateau. Mais pour moi, c'est beaucoup plus important d'avoir ce geste-là envers l'outre-mer.
Dans l'aventure aussi, le chef doublement étoilé Hugo Rollin, j'ai ancien officier de la marine marchande qui a toujours rêvé de traverser l'océan, et le comédien et metteur en scène Alexis Michalik qui a incarné à l'écran le marin Olivier de Kersauzon, mais qui a d'abord refusé ce défi.
J'en ai parlé un peu à des copains qui m'ont dit « mais t'es dingue ! Tu vas passer à côté de cet honneur, de cette aventure incroyable. » Bon, finalement, je vais le tenter.
4 terriens qui vont devoir s'adapter et le navigateur Armel Lecléache n'est pas trop inquiet.
Ce ne sera pas qu'une croisière, on va leur faire participer à toutes les manœuvres, à la vie d'un équipage comme si on était finalement en course, avec des quarts, avec des responsabilités pour chacun.
La flamme devra impérativement arriver en Guadeloupe le 15 juin.
Et l'avantage, c'est qu'il devrait bien manger au cours de cette traversée. Précision signée.
Manger, faire du bateau,
c'est important. Précision signée Jérôme Vallée. Et puis après son périple, la flamme se dressera au cœur du jardin des Tuileries pendant toute la durée des JO. Et les anneaux olympiques, eux, seront installés sur la tour Eiffel. Ça, on l'apprend ce soir. Des anneaux de 9 mètres de diamètre chacun entre le premier et le deuxième étage de la tour Eiffel. Des anneaux qui seront éclairés pendant la nuit.
Eh bien, formidable. Merci beaucoup, Céline Asselot. Vous reviendrez demain dans un instant. C'est le téléphone sonne. On parle de transfuge de classe ce soir. On jette d'abord un œil sur le ciel.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques. Devis et rendez-vous en ligne, tout simplement, sur euromaster.fr.
Élodie Calac, un temps agité en lien avec la dépression pyrrhique, bien sûr.
Exactement, du vent fort sur le nord-ouest, surtout sur le Finistère, jusqu'à 90 à 110 km à l'heure ce soir, 120 à 130 même sur les côtes. Cette nuit, le vent se décalera vers la Manche. Attention au risque de vagues submersion pendant les pleines mers, entre ce soir et demain, du Finistère au Pas-de-Calais. Les cours d'eau sont sous surveillance pour les crues. crues. Des vigilances oranges sont en cours, soyez très prudents. Les pluies arrivées par l'ouest balaient le pays ce soir et cette nuit. Des orages peuvent éclater ce soir des Pyrénées jusqu'au nord de la France. Demain matin, les pluies s'attarderont sur l'est et puis ailleurs, on aura des éclaircies appréciables, des averses, parfois accompagnées d'orages. Elles seront plus nombreuses sur le sud-ouest et vers les Alpes. Il y aura de la neige en montagne vers 1200 mètres, 2000 mètres sur le sud des Alpes et puis encore du vent un peu partout, jusqu'à 90 km à l'heure le matin près de la Manche et 80 en Méditerranée.
Pardon. Et il fera plus frais.
5 à 10 degrés le matin. L'après-midi, pas plus de 12 degrés à Lille, à Cherbourg, 13 à Lyon, 14 à Strasbourg, Paris, Rennes, Limoges et Toulouse et encore jusqu'à 22 à Ajaccio.